côté santé pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité santé, question de femmes.
Amélie Beaucourt.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines maladies touchent plus fréquemment les femmes que les hommes. Et c'est le cas de l'affection neurologique dont nous parlons aujourd'hui dans notre émission Questions de femmes, la migraine, à ne pas confondre avec de simples maux de tête. Elle concerne 2 femmes sur 10 dans le monde contre 1 homme sur 10, avec pour déclencheur des facteurs aussi variés que les bouleversements émotionnels, le cycle menstruel, certaines odeurs, des lumières trop fortes, certains aliments ou même le climat. Maladies chroniques et neurologique, elle paralyse le quotidien de certaines patientes en quête de soulagement, de solutions. Comprendre ce qui provoque les crises, identifier ce qui fait du bien, consulter plutôt que se soigner soi-même, éviter la surconsommation d'antidouleurs, revoir aussi son hygiène de vie. Vous avez la parole pour poser toutes vos questions et comme chaque vendredi, Priorité Santé ouvre son micro à une ou un spécialiste pour vous répondre. Cette spécialiste, c'est vous, professeur Lala Bounasek, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes neurologue au Centre Hospitalier National Universitaire de Fan à Dakar et vous êtes aussi responsable de l'enseignement de la neurologie à l'Université Gaston Berger à Saint-Louis. Nous vous retrouvons dans les studios RFI en full des Aimants d'un camp et nous remercions d'ailleurs toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Une première question pour nous permettre de bien définir la migraine. Elle est posée par Adélaïde qui nous écrit de Chypre sur Facebook. Quelle est la différence entre la douleur de la migraine et celle de maux de tête normaux ? Professeur Lala Bounasek, comment est-ce qu'on reconnaît la migraine ? Quels signes indiquent qu'on est atteint justement de migraine et pas de simple céphalée ?
Un mal de tête, c'est le mot communément utilisé pour désigner une douleur de la tête. Il se trouve que la migraine est un mal de tête particulier qui a ses caractéristiques propres, au même titre que beaucoup d'autres maux de tête. Cette migraine, souvent, c'est une douleur ressentie à l'intérieur du crâne, souvent à la partie antérieure du crâne, que ce soit au niveau du front, au niveau des tempes, autour des yeux, c'est-à-dire la région orbitaire, périorbitaire. Elle est généralement unilatérale. On parle d'hémicranie puisque ça va intéresser la moitié du crâne. Elle va être pulsatile, c'est-à-dire l'individu va la décrire comme les pulsations du cœur. Elle est souvent majorée par l'effort, c'est-à-dire les activités de la vie quotidienne suffisent à déclencher ou en tout cas à la majorer. Et le repos a tendance à la calmer un tout petit peu, pas forcément complètement. Cette douleur est souvent accompagnée d'un certain nombre de signes. Ça va être des nausées, des vomissements, une photophobie, c'est-à-dire une intolérance à la lumière ou une intolérance au bruit, décrite sous le terme de phonophobie. Cette douleur, généralement, va évoluer sur une période de 4 heures à 72 heures. Et puis, un fait important, c'est de s'assurer que la douleur n'est pas liée à une autre maladie, qu'il n'existe rien derrière cette douleur, en dehors du fait que ce soit un terrain migraineux.
Professeur Lala Bounasek, comment on explique qu'elle touche davantage les femmes que les hommes ?
Effectivement, c'est une douleur qui touche davantage les femmes que les hommes. Le système hormonal, les processus hormonaux vont interférer avec le fonctionnement des neurones cérébraux et entraîner des processus aptes à déclencher la libération d'un certain nombre de substances, de neuromédiateurs, c'est-à-dire ce sont les messagers du système nerveux, qui vont engendrer des processus déclenchant la libération de substances dites algogènes, c'est-à-dire qui favorisent les processus de la douleur et de substances responsables de l'inflammation. Eh bien, ce sont les 2 mécanismes majeurs qui vont générer la crise, qui vont déclencher la crise migraineuse.
Toute l'activité hormonale féminine est concernée, aussi bien les règles que les grossesses ou même la ménopause ?
Effectivement, l'évolution de la migraine est très rythmée par les épisodes de la vie génitale chez la femme. Parce que déjà, les premières crises vont souvent arriver à l'âge pubertaire, donc à la puberté. Ensuite, une fois les menstruations installées, ces crises, pas toutes, mais pour la plupart, vont être rythmées par les menstruations, donnant une crise qui est apte à survenir entre 2 jours avant le déclenchement des règles et 3 jours après celui-ci. Donc, faire que les crises vont survenir chez ces femmes préférentiellement durant cette période-là. Et ensuite, il va y avoir la grossesse pendant laquelle, du fait des variations hormonales, toujours, il va y avoir une amélioration. Donc, ce profil de variation va entraîner une amélioration des crises. Il y en aura moins pour une reprise du cours normal de la maladie après l'accouchement. Et puis, on arrive vers la ménopause. Et à cette période, si pendant la phase même périménopause, il va y avoir une majoration de la fréquence de survenue des crises, eh bien, au-delà, généralement, on note une certaine accalmie.
Le facteur hormonal, donc, est-ce qu'il existe, professeur Lala Bounasek, d'autres facteurs, des facteurs extérieurs qui pourraient provoquer, déclencher ces migraines ?
Les facteurs déclenchants de la migraine sont nombreux et variés. Certaines substances contenues dans le chocolat, notamment les charcuteries, le vin et d'autres. Hein. C'est généralement, les patients identifient leurs facteurs alimentaires déclenchants. Les facteurs psychologiques, le stress, c'est un élément favorisant souvent le déclenchement de la crise. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, à savoir le fait d'apprendre une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise, sont aptes à déclencher la crise. Les changements de rythme, les voyages par exemple, les week-ends, les perturbations du sommeil. Donc voilà, un certain nombre de facteurs très variés qui pourront entraîner le déclenchement de la crise migraineuse plus facilement.
Professeur Lala Bounasek, est-ce que vos patientes, lorsqu'elles vous consultent, ont déjà identifié elles-mêmes ces facteurs déclenchants ? Elles savent vous dire exactement quand leur migraine arrive et ce qui les déclenche ?
Parfois oui, parfois non, parce que certaines sont plus regardantes, donc elles ont fait le lien entre la survenue de la crise et un contexte particulier. D'autres non, alors même que ce facteur déclenchant existe. C'est pourquoi il est préconisé lors de la prise en charge dans le cadre de l'éducation thérapeutique, justement, de sensibiliser sur ce facteur déclenchant et les amener à l'identifier ou les identifier, parce que parfois ils sont nombreux, pour mieux faciliter, une fois identifiés, la maîtrise, la gestion, en tout cas l'adaptation, pour mieux gérer l'exposition aux facteurs déclenchants, pour amenuiser la fréquence de survenue des crises.
Et pour la plupart d'entre elles, elles sont déjà passées par des phases d'automédication. Elles ont leur propre méthode pour faire passer ces douleurs. Elles piochent dans leur armoire à pharmacie.
Tout à fait. L'automédication est là, elle est bien là. C'est une solution facile, surtout si on arrive à calmer la crise avec. C'est peut-être plus commode que de chercher à accéder aux soins, à entrer dans le circuit de soins. Ce n'est pas toujours évident et donc ça permet peut-être parfois de régler l'urgence douloureuse en attendant de voir le médecin. Mais l'idéal, évidemment, est de se rapprocher des donneurs de soins pour avoir un meilleur diagnostic, être sûr de son diagnostic et donc avoir le meilleur traitement possible.
On va parler justement de l'importance de la consultation et puis des traitements des causes, non pas seulement des traitements de la douleur une fois qu'elle est là, mais d'abord notre palabre au féminin, comme chaque vendredi. Et elles sont deux aujourd'hui au micro de notre reporter Charlie Dupio à Cotonou, au Bénin. Daphné, 32 ans, et Akosiwa, 33 ans. Elles ne se connaissaient pas avant de dialoguer ensemble. C'est Daphné qui commence.
Les maux de tête, d'après mon expérience, ça peut être soit la fatigue, soit les yeux. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant l'écran à cause de mon boulot. Je fais de la communication digitale. Donc, si je n'ai pas mes lunettes, là j'ai oublié mes lunettes dans la voiture, si je n'ai pas mes lunettes et puis je suis trop devant l'écran, je commence à avoir des maux de tête là. Ça tire et puis je sens que c'est parce que j'ai là, ici, au niveau de, je ne sais pas, la tempe. La tempe ? Voilà, c'est au niveau de la tempe. Genre, toute une journée, si je ne fais pas ce qu'il faut. Oui, c'est très difficile.
Tu sais qu'il y a des gens qui ont des maux de tête au point où ils coulent des larmes.
Oui, oui, oui. Oui, ça m'est arrivé. Tu as les yeux gonflés, tu as les dents qui coulent. Oui, ça m'est arrivé. Et du coup, j'arrête tout. J'arrête tout, je bois de l'eau, puis je me repose. Et puis après, je récupère. En fait, je ne prends pas systématiquement des médicaments. Par exemple, quand j'ai les tiraillements au niveau de l'œil, du coup, je bois beaucoup d'eau.
Le remède miracle.
Je bois beaucoup d'eau, et puis des fois, ça se calme. Quand ça se calme, je me dis, bon, ça doit être la fatigue. et je me repose. Ou bien je fais de la sieste en journée, ou bien j'allonge mon temps de sommeil la nuit. Non, si ça marche pas, si ça dure pendant 3 jours, 4 jours, là, je sais qu'il y a un problème. Là, je vais voir un médecin, au lieu de faire de l'automédication, je vais voir un médecin, je préfère que ce soit le médecin qui me prescrive un paracétamol ou bien un doliprane et n'importe quoi, et je préfère le prendre comme ça.
Moi, je ne suis pas une lève-tô, donc vraiment, les maux de tête...
Toi, tu dois assez, en fait.
Beaucoup trop, selon ma famille, je dors beaucoup trop. Donc, franchement, avant d'avoir les maux de tête, vraiment, c'est que j'ai regardé trop de séries. Mm-hmm. Là, oui, je peux avoir
trop
de temps devant l'écran. J'ai rallongé des épisodes d'affilée. Ça me fait dire, OK, il faut que j'éteigne là. Parfois, j'ai les maux de tête, mais je garde un côté parce que je veux voir la fin de l'histoire. Non, sérieux. Ouais. J'ai pas du tout de problème de maux de tête, moi.
Là, ce sont deux causes qu'on a évoquées. Mais là, il y a une troisième cause. Mmh. Après l'accouchement, après la naissance de mon troisième bébé, j'ai ressenti beaucoup de migraines également.
Ah bon? C'est lié à l'accouchement?
Oui. Là, je n'ai plus. Il y a longtemps, j'ai eu des maux de tête. Parce que justement, je fais attention à mon temps de sommeil. Je fais attention à garder toujours les lunettes sur les yeux avant de regarder les écrans. Donc, j'ai plus de maux de tête depuis...
Mais avant, c'était comment? Avant, c'était combien la fréquence?
Avant, disons une fois la semaine.
Wow, carrément. Ouais. Une fois par semaine, tu avais des maux de tête?
Oui. Mais là, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Bah, je me dis, bon, je suis seule avec les enfants, mon mari n'est pas là. Si je tombe malade, qui va me ramasser? Donc, du coup, fais très attention. Fais attention à son temps de sommeil. Fais attention aux écrans.
Et aux cris des enfants. Fais attention aux cris des enfants.
C'est vrai. C'est quand tu passes une semaine avec elle, tu as envie de disjoncter, en fait. Tu as des mots de tête, pas la force de crier. Donc là, mettons, ça va. L'alcool aussi donne des mots de tête. Moi, ça me donnait des mots de tête aussi. Donc, du coup, je laisse. Quand je tombe enceinte, j'arrête l'alcool. Et puis, quand j'accouche, j'essaie de faire une petite rébellion. Je me dis, bon, c'est bon, quoi. Un an sans boire de l'alcool. Je me dis, je vais faire plaisir. Quand bébé dort, je me dis, je vais faire plaisir. Je vais prendre un verre de vin. Après, il y a les maux de tête.
Alors, quand tu prends
le... verre de vin. J'ai des maux de tête. Ou bien de la bière. J'ai des maux de tête. Donc, du coup, je laisse tomber. Plus d'alcool pour moi.
Ah oui, je voulais te demander, dans la période où tu avais beaucoup les maux de tête, une fois par semaine, tu t'es pas dit qu'il faudrait peut-être que tu fasses un scanner de la tête, du cerveau, je sais pas?
Non, non. Okay. Je n'ai pas pensé à un problème cérébral, rien du tout, non. Okay. En fait, il faut se connaître, s'analyser correctement et mieux connaître son corps. Je pense que ça te permet d'éviter les maux de tête, en fait. Quand ça commence, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 24 heures? Et je regarde mon temps de sommeil. Est-ce que j'ai fait au moins 6 heures, 7 heures de sommeil? Non. Est-ce que j'ai eu des insomnies? Oui. Est-ce que je me suis beaucoup hydratée? Non. Alors, c'est le manque d'hydratation. Et généralement, ça passe. Ça passe, je dis, OK, c'est bon.
Daphné et Akosiwa au micro de Charlie Dupio. Professeur Lala Bounassak, une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre. On a entendu beaucoup de choses qu'on avait déjà évoquées avec vous auparavant, notamment le rôle du sommeil.
Tout à fait. J'ai trouvé ces échanges très intéressants, notamment en ce qui concerne les causes possibles de la survenue de la crise, en évoquant notamment les troubles visuels, la fatigue oculaire, etc., qui peuvent effectivement favoriser la survenue des céphalées, qui peuvent être favorisées par les mêmes facteurs, notamment ce qu'on appelle la céphalée de tension, qui est une céphalée souvent confondue avec la migraine, mais qui est différente de celle-ci et qui est souvent favorisée par la fatigue, la surcharge de travail. Et ce qui est positif, c'est, à côté de ce questionnement, eh bien, l'attitude, la conduite à tenir en cas de persistance. Donc, elle a pensé qu'il fallait à ce moment-là ne plus se limiter aux recettes empiriques et essayer de consulter pour voir, creuser un peu plus et essayer d'aller plus loin en termes de diagnostic. Et la copine qui lui demande si elle a pensé à faire un scanner. Effectivement, dans ces situations où on a une tendance à une résistance de la douleur au traitement qui habituellement marche, eh bien, un des réflexes est d'aller vers le soignant et en particulier de se faire prescrire une imagerie pour éliminer une cause cachée de la céphalée, pour ne pas passer à côté d'une céphalée qui en réalité n'est que l'expression d'une maladie sous-jacente, ce qui est un bon réflexe.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on retrouve Amina, justement, à Dakar, au Sénégal. Bonjour Amina.
Bonjour.
Racontez-nous, Amina, vous souffrez, vous aussi, de migraines. Depuis combien de temps et qu'est-ce qui les déclenche? Est-ce que vous avez identifié ce qui déclenchait ces migraines?
Bon, des fois, je me dis que c'est causé par un bruit intense.
Un bruit intense, c'est, si, j'ai bien, si j'ai bien compris, d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait quand ça vous arrive? Où est-ce que ça vous fait mal? Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là?
J'ai mal à la tête, j'ai des problèmes de vision, j'ai des vertiges en plus.
Est-ce que vous êtes allée consulter, Amina?
Oui, je faisais ça 15 jours à l'hôpital. On m'hospitalise à l'hôpital ça 15 jours, des fois. Ça faisait un mois. Chaque la fin du mois ou bien dans 20 jours. Ça me fatiguait tellement qu'à chaque fois, je suis à l'hôpital.
Donc, vous avez été hospitalisée pour ça. Qui est-ce qui vous a reçu?
Bon, au début, c'était des infirmières. Mais finalement, on m'a mis en rapport avec un neurologue. Ma prescrit des scanners, j'ai fait des scanners IRM, mais toujours rien.
Un neurologue, d'accord, qui vous a prescrit quelque chose?
Oui, des médicaments calmants.
Des médicaments calmants. Est-ce que ça a fonctionné?
Bon, ça fonctionne des fois, mais en fait, ça ne fonctionne pas.
Parfois, ça ne fonctionne pas, d'accord. Vous voyez toujours ce neurologue?
Oui, je le vois toujours.
Est-ce que vous avez une question à poser au professeur Lala Bounasek, peut-être, Nina?
Oui, en fait, actuellement, je n'arrive pas à dormir. Ça fait des années que je n'arrive pas à dormir. Je prends des fois des somnifères. Mais ces somnifères me trouvent. Si je prends les somnifères, je vais rester 24 heures au lit.
Professeur Lala Bounasek, on parlait justement du rôle du sommeil, mais parfois, si la migraine empêche complètement de dormir et que les médicaments prescrits à Amina la privent de sommeil, l'empêchent visiblement de dormir, qu'est-ce que vous lui conseilleriez, vous?
Bonjour Amina, merci pour ce témoignage sur les difficultés que vous avez à gérer votre douleur et ses conséquences sur votre sommeil. Si ce dont vous souffrez est une migraine, et je parle conditionnel parce que vous avez donné une description partielle hein, qui ne donne pas toutes les caractéristiques en fait, qui permettent de poser de manière péremptoire le diagnostic de migraine. En plus, il y a des éléments atypiques. Il faut savoir que, en tout cas, si c'est une migraine, lorsqu'un traitement ne marche pas, il faut en essayer un autre. Ça peut être de la même famille ou d'une famille différente. Et si... on arrive à bout de cette douleur, ça vous permettrait déjà de retrouver le sommeil parce qu'il y a une part importante de la douleur, d'après votre description, sur les perturbations de votre sommeil. Donc deux crises par semaine, c'est une fréquence quand même non négligeable et ça peut être assez invalidant s'il existe une interférence avec le sommeil. Donc essayez de vous rapprocher à nouveau d'un soignant pour réévaluer le traitement, voir s'il y a lieu de juste des réaménagements ou de modifier ce traitement. Maintenant, on va rester la gestion du facteur déclenchant. Vous semblez parler du bruit, l'exposition au bruit. Ça va être un peu plus délicat puisque ça fait partie de l'environnement quotidien. Mais essayez d'user peut-être de stratagèmes pour s'y soustraire quand même un peu, se trouver des moments d'isolement après une journée, surtout après une journée assez chargée. Ça va dépendre du contexte, en fait.
Au niveau justement de la fréquence, professeur Lala Bounasek, à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter?
D'une manière générale, on dit 8 jours de crise jusqu'à entre 8 et 15 jours de crise par mois. On peut passer d'un diagnostic à un autre. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est toujours dans la migraine classique? Et réviser le diagnostic parce qu'il y a à côté la migraine qui tend à se chroniciser, qui tend à se transformer en céphalée quotidienne. Donc, si l'individu fait deux jours de crise par semaine, c'est déjà pas mal parce qu'il faut savoir que derrière, il y a la prise médicamenteuse qui va suivre le rythme de la céphalée. Et à partir d'un certain niveau de médication, eh bien, on est dans l'abus, on va dire, médicamenteux, qui est un autre gros facteur de transformation de la migraine et de chronicisation de celle-ci.
On va poursuivre justement notre discussion à ce sujet dans quelques minutes, mais d'abord, on écoute la chanson que vous avez choisie, Amina, Kaladjo de Baba Maal sur RFI. Priorité Santé sur RFI avec, comme chaque vendredi, notre émission Questions de femmes. Vous avez la parole aujourd'hui sur les migraines, maladie neurologique qui touche 2 femmes sur 10, caractérisée par des maux de tête localisés, une pulsatilité, l'impression que le cœur bat dans la tête, associée également à une photophobie, des nausées et des vomissements. J'ai bien résumé la migraine, professeur Lala Bounasek ?
C'est bien cela.
Vous êtes donc neurologue au Centre hospitalier national universitaire de Fan à Dakar et vous êtes avec nous depuis les studios de RFI en full day et Mandinkan. Et on part tout de suite à Yaoundé.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et nous sommes en ligne avec vous, Edith, bonjour.
Bonjour Amélie.
Racontez-nous Edith, qu'est-ce qui a déclenché vos migraines ? Depuis quand est-ce que ça dure ?
Alors, mes migraines, je les ai depuis l'adolescence. Donc, c'est arrivé comme ça, tout de go, à la suite de l'apparition des règles. C'était très bouleversant, très douloureux. Et petit à petit, j'ai commencé à constater que régulièrement, j'avais très mal à la tête. Et c'était tellement violent que des fois, il fallait que je me retranche dans un endroit un peu sombre. Parce que la lumière, du coup, m'était également insupportable. Et voilà, j'ai pris habitude comme ça de me soulager avec du paracétamol ou bien des aspirines. Et aujourd'hui, à 46 ans, je me pose des questions. Voilà, est-ce que tous ces médicaments n'ont pas un effet néfaste finalement sur moi ? Entre-temps, depuis 3 ans et demi par là, je porte des lunettes. J'ai constaté voilà, que j'ai un petit peu moins de migraines qu'avant quand même.
Parce que vous avez un problème de vue supplémentaire, Edith ?
Oui, j'ai une sensibilité à la lumière. Je suis photophobe.
Professeur Lala Bounasek, on retrouve effectivement ce que vous disiez au départ, le facteur hormonal aussi qui a sûrement pu déclencher la migraine à la puberté d'Edith, et puis ces autres symptômes. La question, c'était sur la prise d'antidouleurs. Concrètement, est-ce que ça peut avoir sur le long terme des effets négatifs ?
Effectivement, c'est à juste titre que Edith se pose cette question parce qu'effectivement, la migraine étant une pathologie, une maladie chronique, va nécessairement amener l'individu à une prise médicamenteuse sur le long cours. Donc, il est clair que tout médicament peut avoir des effets négatifs, appelés effets secondaires ou indésirables. Alors, ils ne surviendront pas de manière systématique chez tout individu, mais plutôt chez certains qui ont déjà un terrain les prédisposant. Et pour le paracétamol, il est reconnu. Un des plus craints parmi les effets secondaires, sont les effets sur le foie, donc les complications hépatiques, bien qu'il en existe d'autres, mais ce sont celles qui sont le plus décriées. Mais on peut avoir des phénomènes allergiques, des complications rénales. Pour l'acide acétylsalicylique, c'est également un médicament qui peut générer des effets secondaires, dont celui qui est reconnu aux médicaments à effet anti-inflammatoire, à savoir l'irritation de la muqueuse digestive, mais on peut aussi avoir des effets allergiques et d'autres. Il faut savoir que ces effets sont parfois favorisés par le mésusage quand même ou le surdosage, et il faut toujours avoir le réflexe d'arrêter et de retourner voir son médecin en cas de survenue d'un effet inattendu.
Le surdosage, justement, professeur Lala Bounasek, ça intervient à quel moment ? Quand est-ce qu'on estime qu'on en consomme trop ?
Alors, on en consomme trop lorsqu'on prend plus que la dose prescrite. En règle générale, en pratique courante, si la prescription est respectée, généralement, le patient n'a pas de risque de se surdoser. Pour le paracétamol, c'est un exemple que je donne, et il ne faudrait pas dépasser classiquement les 3 grammes sans prescription médicale, sinon on peut aller jusqu'à 4 grammes. Au-delà de certains taux, 4, 6 grammes par jour, eh bien on peut être dans la situation de surdosage. Mais généralement, il s'agit de situations bien particulières.
Et au-delà de l'effet secondaire, est-ce qu'on peut développer une forme d'insensibilité à l'effet calmant du paracétamol ?
Généralement, ce genre d'effet secondaire et surtout le fait des médicaments qui peuvent entraîner de l'accoutumance, qui peuvent entraîner de l'addiction, des effets addictifs, à savoir les médicaments à dérivés morphiniques. C'est d'ailleurs pourquoi ces traitements sont souvent déconseillés dans le cadre de la migraine, dans le cadre de la prise en charge des céphalées d'une manière générale, parce qu'ils sont pourvoyeurs du fait de l'accoutumance, ce qui fait que le patient a tendance à prendre le médicament du fait de ces crises répétées, parfois même à titre préventif, avant même la céphalée, du fait de la crainte de la survenue de la crise, donc par anticipation. Et ce médicament ne calme pas la crise, eh bien, on est dans la reprise du médicament, donc la répétition des prises, alors même que le médicament parfois ne calme pas la douleur, et on passe dans des phénomènes addictifs et on tombe dans ce qu'on appelle la transformation, notamment de la migraine, qui d'épisodique va donner des céphalées quasi quotidiennes qui vont survenir tous les jours au réveil, et on entre dans un cercle vicieux, et ça, c'est une des complications potentielles de la migraine, surtout en cas de mésusage du traitement.
Ça répond à votre question, Edith ?
Oui, merci. Et une autre, s'il vous plaît. Est-ce que le professeur pourrait me conseiller des méthodes naturelles comme ça pour soulager des migraines sans m'intoxiquer ?
Professeur Lala Bounasek ?
Alors, souvent, les méthodes naturelles sont le fait propre du patient. Dans ce qui est codifié, le traitement est basé sur la médication. Sauf dans certaines situations où on craint certains effets secondaires, notamment pendant la grossesse. Alors, les méthodes naturelles, on les connaît, c'est le massage des tempes qui peut amoindrir l'intensité de la douleur que les patients, d'ailleurs, adoptent souvent de manière délibérée, et ça marche en général. L'hydratation, une de nos auditrices en a parlé tout à l'heure, parce qu'on s'est rendu compte que la déshydratation faisait partie des éléments qui peuvent générer la douleur, mais aggraver même la douleur pour ce qui est d'une migraine, d'une crise installée. Alors, des tisanes, certains patients en utilisent parfois. Sinon, nous avons les méthodes non médicamenteuses. Certains préconisent l'acupuncture, ça marche chez certains. Certains vont préconiser tout ce qui est naturel, mais en réalité avec une certaine étiquette médicale quand même. La thérapie cognitivo-comportementale, la psychothérapie également. Et qui vont aider, qui vont parfois accompagner le traitement médical et qui vont parfois tenir lieu de traitement, lieu et place, parce que le traitement médical aura été contre-indiqué pour une raison ou une autre.
Merci beaucoup pour ces précisions et merci Edith pour votre question. On va rester à Yaoundé, c'est Adi qui nous envoie un autre témoignage, on écoute tout de suite.
Bonjour Priorité Santé, je me nomme Adi, j'ai 29 ans, je réside dans la ville de Yaoundé. J'ai régulièrement des migraines, mais je n'ai pas encore eu à faire une consultation spécifique là-dessus. Bon, je prends régulièrement Ibex et j'applique également des baumes sur les tempes parce que ma tempe gauche et ma tempe droite sont les lieux où la douleur est vraiment intense. Donc j'applique le baume dessus et je fais des massages circulaires. D'un autre côté également, j'ai des problèmes au niveau oculaire. J'ai été diagnostiquée d'une myopie avancée et je mets des lunettes. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le temps passé devant un écran peut influencer la récurrence des migraines? Merci.
Première question posée par Adi, professeur Lala Bounasek. Les écrans, l'ordinateur devant lequel on travaille ou la télé qu'on regarde le soir à la maison, est-ce que ça peut déclencher des migraines?
Effectivement, le temps passé devant les écrans peut influer sur la récurrence des migraines, puisque ça fait partie des facteurs déclenchants qui ont été décrits, l'exposition aux écrans. Vous savez que les écrans dégagent des processus lumineux avec des bandes de fréquences variables, dont certaines peuvent être invalidantes. Chez certains patients, notamment prédisposés, dont le facteur déclenchant est constitué par ce facteur. Il faut savoir que lorsqu'on a un facteur déclenchant déjà identifié, l'idéal, c'est de faire en sorte d'amoindrir l'exposition tant qu'elle est possible. Alors, après, est-ce qu'on est devant une migraine? Si c'est bien une migraine, parce que la description a un côté un peu atypique, eh bien, il faut, en plus de ce facteur déclenchant, se rapprocher d'un soignant pour être sûr de son diagnostic déjà, parce que visiblement, c'est un auto-diagnostic. Et puis, voir s'il y a possibilité de revoir un traitement, d'appliquer en tout cas un traitement médical. Sinon, s'assurer qu'on est devant une migraine et rien d'autre. Parce que des fois, d'autres maux de tête peuvent revêtir des caractéristiques de la migraine sans l'être.
S'il s'avère effectivement qu'il s'agit d'une migraine, professeur Lala Bounasek, et puis pour toutes les auditrices qui souffriraient aussi de ce problème-là, c'est difficile de se passer des écrans aujourd'hui. Je pense qu'au travail, c'est parfois assez compliqué. Quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner ? Est-ce qu'il existe des méthodes pour régler la luminosité, par exemple ? Ça peut suffire ?
Effectivement, sur les écrans, notamment des ordinateurs. Maintenant, il y a les réfractions qui sont réglées parce que la protection est de plus en plus intégrée dans l'ordinateur. Donc, ce problème-là, il est réglé. La luminosité, il est clair que plus elle est intense, va bien jouer, va invalider, incommoder davantage la patiente. Et effectivement, si le contraste pourrait être réduit, ça pourrait être bénéfique. Réduire le temps d'exposition, parce qu'actuellement, il n'est pas sûr que tout le temps passé devant les écrans soit réellement utile, soit d'ordre professionnel. Donc, éviter les expositions le soir fait partie des mesures d'hygiène à prendre en considération. Et puis, il y a la distance entre les yeux et l'écran. Malheureusement, ceci n'est pas toujours respecté. C'est surtout pour ce qui est des écrans de smartphone. Or, ça fait partie des choses qui peuvent incommoder et constituer un des facteurs déclenchants.
Autre témoignage, autre question qui nous vient cette fois de Conakry.
Bonjour, Priorité Santé. En fait, je voulais juste apporter un témoignage. J'avais tout le temps des migraines avant, avec des douleurs vraiment terribles, terribles, accompagnées des nausées, des vomissements. Et au minimum, pendant 3 jours continuels, je ne pouvais même pas relever ma tête. Même si je prends des antalgiques, ça ne me soulage pas. J'ai arrêté de manger plein de choses, les fromages, les charcuteries, du chocolat, tout. Je prends beaucoup de fruits, kiwis, prunes, les pruneaux. Et en plus, j'ai eu une grand-mère qui m'a dit d'essayer l'ail. Ça me soulage un peu. Pendant les 3 jours, je le fais et puis après, je suis tranquille. J'avais remarqué aussi pendant les règles, soit juste avant ou après, parfois, la migraine, ça commence des petits maux de tête et puis après, c'est la même chose qui continue. Maintenant, je voulais juste demander au médecin qu'est-ce qui provoque réellement la migraine et pourquoi les douleurs parfois sont toujours accompagnées des nausées ou même des vomissements. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter complètement d'avoir la migraine? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne émission.
Professeur Lala Bounasek, une question de Sadiatou. Donc, quel lien entre migraine et nausées et vomissements?
Bonjour à Sadiatou et merci pour ce témoignage avec des méthodes qui, là, ont bien pu marcher. Cependant, elle se pose des questions par rapport à la migraine, la cause de sa migraine. Je disais tout à l'heure que le facteur génétique qui faisait que les sujets présentés, les patients donc, avaient déjà un terrain prédisposant génétique, avec des gènes qui sont maintenant bien connus, qui vont être à l'origine d'une hyper-excitabilité du cerveau. Donc, ils ont ces patientes migraineuses donc, ont un cerveau plus sensible à certains phénomènes et de ce fait sont plus aptes à générer des crises, notamment certaines pour ce qui est de certaines parties du cerveau, d'où partent justement les premiers mécanismes qui enclenchent la crise. Et il va y avoir, du fait de cette hyper-excitabilité associée à l'exposition à un facteur, eh bien, un dysfonctionnement de certaines parties du cerveau, notamment le tronc cérébral, l'hypothalamus, donc, qui vont générer ces processus dont je parlais tout à l'heure, avec largage de certaines substances qui vont, d'une part, favoriser la sécrétion des produits qui génèrent la douleur et de ce produit d'autre part inflammatoires qui vont potentialiser les mécanismes qui produisent la crise. Le lien avec les règles, c'est que au cours du cycle menstruel, il va y avoir des variations hormonales et parfois des phases pendant lesquelles il va y avoir une chute brutale du taux de certaines hormones, donc notamment des œstrogènes. qui va être à l'origine de cette, du dysfonctionnement de ces neuromédiateurs, ces messagers dont je parlais tout à l'heure, impliqués dans le déclenchement de la crise. Alors, au même titre, il va y avoir une activation de certains circuits, dits réflexes, qui sont des circuits qui existent, qui font le lien entre ces zones du cerveau et certaines parties du tube digestif. Et c'est ça qui va être à l'origine des vomissements, parce qu'une substance produite va activer certaines fibres, qu'on appelle les fibres vagales, qui vont générer ce qu'on appelle le réflexe de vomissement, qui va se passer entre le tronc cérébral et le tube digestif.
Priorité santé sur RFI.
Et nous sommes en ligne avec Oulaye. Vous nous appelez de Dakar au Sénégal. Bonjour Oulaye.
Bonjour madame, ça va?
Ça va et vous? Alors racontez-nous comment vous souffrez de migraines aussi, Oulaye, c'est ça? Qu'est-ce qui les a provoquées? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, en fait, je ne sais pas quelles sont les causes, mais je me rappelle en 2010, j'avais tellement des migraines, même pour monter sur les escaliers, j'avais tellement de mal à monter. Je restais 30 minutes pour mettre fin à mon marche pour monter. Et un jour, je suis partie voir un médecin, ils m'ont dit que de faire des analyses. Et j'ai fait des analyses, mais ils m'ont dit que j'ai un manque de sang. Et j'ai dit que est-ce que le manque de sang cause des migraines? Après, je me suis soignée, j'ai pris des médicaments et tout ça. Ça a arrêté, mais en 2015, ça a repris encore. J'ai des migraines, j'ai des mal de tête incroyables. Parfois, ça prend une partie gauche, parfois, ça prend une partie droite. Et bon, si ça vient, ça vient et c'est difficile, quoi.
Un manque de sang, excusez-moi, Oulaye, vous souffrez d'anémie, c'est ça?
C'est ça qu'on m'a dit. Les médecins m'ont dit que je souffre d'anémie sévère.
Il y a professeur Lala Bounassa qui a un lien entre l'anémie et les migraines.
Oui, il peut exister un lien entre l'anémie et la migraine. Il faut savoir que chez Oulaye, déjà, bonjour Oulaye, on retrouve un caractère multifactoriel de ces douleurs. Elle a parlé d'anémie, elle a parlé d'hypotension, elle a parlé de migraine. Donc, c'est trois facteurs qui sont pourvoyeurs de douleurs, de céphalées. Et probablement qu'elle souffre de plusieurs types de migraines. Donc, il faudrait faire la part des choses dans ce qu'elle présente. Parce qu'effectivement, chez une patiente, on peut retrouver plusieurs types de douleurs, surtout si les facteurs multiples causaux sont là. Et donc, je pense que du fait de ce caractère multifactoriel à la cause de ces céphalées, de ces douleurs, il faudrait peut-être se rapprocher d'un praticien pour faire la part des choses entre les différents profils. Donc, chaque type de facteur va générer une douleur de profil différent, donc, et va permettre de voir lesquels entraînent la crise. Est-ce un profil de céphalée migraineuse? Est-ce un profil de céphalée pouvant être imputable à l'hypotension? Est-ce un profil pouvant être imputable à l'anémie? L'anémie va entraîner, du fait du déficit en globules rouges, donc va entraîner ce qu'on appelle une hypoxie. Le taux d'oxygène dans le sang peut être en défaut. Et c'est un facteur déclenchant possible de la céphalée, surtout si l'anémie est relativement sévère, comme elle le décrit d'ailleurs.
Oulaye, pardon, vous aviez une question peut-être pour le professeur Lala Bounassa. Je lui ai résumé votre situation, mais vous vouliez peut-être lui demander quelque chose concernant ce manque de fer.
Ah oui. En fait, vu qu'on m'a dit qu'il faut que je prenne des fers, est-ce qu'à un moment donné, je peux arrêter?
Est-ce que ça risque de reprovoquer des migraines, c'est ça?
Oh, voilà, exactement. Oui. Parce qu'ils m'ont dit qu'il faut que je le prenne jusqu'à la fin. Et moi, je me dis, est-ce que ça ne va pas m'en ramener des conséquences après?
Professeur Lala Bounassa, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, par rapport à ce fer sur l'anémie, il va être difficile de poser un diagnostic et surtout de préconiser un traitement. Il faut savoir qu'il n'existe pas une anémie, mais des anémies avec des causes multiples. Et une des causes, c'est effectivement le manque de fer, le déficit en fer, parce que ça entre dans le métabolisme du globule rouge. Et donc, si la cause de l'anémie est un déficit en fer, oui, il peut être adapté de le prendre, mais toujours sur prescription médicale, avec un suivi et des contrôles pour voir jusqu'où devrait aller la prescription. Et par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'il existe des anémies non nécessairement liées à un déficit en fer, et auquel cas, il faut des explorations pour voir la cause réelle et amener à une conduite thérapeutique adaptée. Donc, je pense qu'il faut se rapprocher d'un spécialiste de l'hématologie pour faire le bon diagnostic étiologique, c'est-à-dire chercher la vraie cause de cette anémie et produire un schéma thérapeutique, un traitement adapté à la cause.
Oulay, merci beaucoup pour votre question et on va partir à Douala au Cameroun avec notre dernière auditrice, c'est André. Bonjour André.
Bonjour.
André, vous nous appelez aujourd'hui, vous, pour témoigner de migraines qui se sont résorbées en quelque sorte. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
Alors, il y a quelque temps, donc, j'avais un jour comme ça, j'ai commencé à avoir mal un peu à la tête le matin. Et bon, je me suis dit en sortant, je n'ai rien pris, pas de médicaments. En sortant, eh bien, ça allait passer. Sauf que en fin de journée, ça s'est accentué et vers 20h, c'était vraiment horrible. J'avais très très mal sur le dessus de la tête et puis un peu derrière. Et je suis allée consulter le lendemain. J'ai discuté avec le médecin généraliste qui m'a posé un certain nombre de questions, qui m'a fait passer quelques examens et qui a conclu que c'était juste des migraines. Mais en explorant un peu plus, elle m'a dit que c'était dû au manque de sommeil principalement, lié au stress, à un changement radical que j'étais en train de vivre, en tout cas que je vivais depuis quelques semaines dans ma vie. Et surtout que le facteur déclenchant pourrait être le manque de sommeil, parce que je dormais environ 4 heures par nuit, peut-être 3 heures, 4 heures par nuit, j'arrivais pas à dormir plus, et puis voilà.
Alors vous avez modifié vos habitudes et tout s'est résolu ?
Pas seulement, parce que elle m'a prescrit un premier traitement durant une semaine qui n'a pas marché, je pense que c'était un peu léger, je dirais. Et puis, donc je retourne vers elle. Elle m'a prescrit un autre traitement en me disant que celui-là, je devrais le prendre pendant 3 mois parce que c'était une vraie crise migraineuse, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et qu'on allait arrêter de prendre ce médicament-là au fur et à mesure, selon un protocole qu'elle m'a donné. Ça a clairement stoppé les migraines, mais effectivement, j'ai changé, comment je vais dire ça, j'ai changé d'hygiène de vie. Le fait d'avoir moins mal à la tête m'a déjà permis de mieux dormir. Et il faut dire que je ne dormais pas beaucoup la nuit parce que j'étais occupée, en fait. J'étais très occupée, donc j'ai banni cette occupation-là de mon existence et tout. J'ai retrouvé 6-7 heures de sommeil environ. Et puis, voilà, les choses se sont arrangées graduellement. Mais ça a duré quand même environ 3 semaines de grosses douleurs, vraiment très, 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 très douloureuses.
Et un cercle vertueux ensuite, c'est ce qu'on comprend, André, des médicaments qui ont permis d'améliorer tout doucement la situation. Professeur Lala Bounasek, une dernière question pour vous. Le bon réflexe qu'a eu André, c'est d'aller consulter immédiatement ?
Tout à fait. Bonjour André. Je pense que là, c'est le témoignage d'une expérience plutôt heureuse, hein, dans laquelle on a su allier et le traitement médicamenteux et les mesures d'hygiène, notamment du sommeil et autres, qui ont permis de venir à bout d'une céphalée très invalidante. Et avec à la base le recours aux soins, je pense que c'est important parce que ça permet, en collaboration avec le soignant, de poser des schémas thérapeutiques clairs, de les appliquer et d'en évaluer l'effet.
Merci beaucoup André pour votre question. Professeur Lala Bounasek, merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Merci aussi aux équipes du studio RFI en Full Full Day et en Mondinkan. On va se quitter avec votre choix musical, André, justement, Time de Mickey Echo sur RFI. Well, the streets are empty where we used to run, and the cars are all on fire. Yeah, we fall like leaves in the garden of Eden, Eden. I remember how it felt being in the sun, when I heard the ancient choir in the dead of night, like an angel singing, singing. At time doesn't love you anymore, but I'm still knocking at your door. Carved your name in a word, it spelled desire, like an ocean deep where the water's heaving, heaving. And your love pours down like a waterfall, and I can't escape the tide. Here's my hand, baby, take it or leave it, leave. Cause time doesn't love you anymore, but I'm still knocking at your door. Honey, we can run forever, if forever's what's in store. Hold time. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Didier Bleu, Louise Cadélec, Laurent Philippot et Alassane Bireba. Lundi, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'excision à l'occasion de la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. À lundi, même heure, sur RFI. Promise I won't be the one to blame.